Chers auditeurs, bonjour. À la radio du cinéma, on a toujours vocation à essayer de vous ouvrir grand les chemins du cinéma et quelques chemins parallèles bien sentis. Aujourd'hui, on a une chance inouïe de croiser Jean-Christophe Corrette. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Bienvenue à la radio du cinéma. Vous êtes un éditeur un peu atypique parce que vous avez décidé de miser sur, on va dire, des artistes de dimension internationale, français ou pas toujours, qui grenouillent dans un univers un peu fantastique, de science-fiction, de tous ces univers-là, et qui ont un point de convergence par rapport au cinéma. Jean-Christophe, bienvenue.
Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup, David, de me recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir de pouvoir parler notamment d'illustration, puisque c'est vrai que de tout temps, il y a quand même eu des liens très forts entre l'illustration et le cinéma. Et si on remonte même jusqu'au premier, que je considère comme un vrai réalisateur de films, Georges Méliès.
Georges Méliès, bien sûr.
C'est vrai que c'est le premier qui invente le langage du cinéma. Et dès l'invention de ce qui va devenir le cinéma, presque d'anticipation, le cinéma qui raconte des histoires, on est justement sur des univers picturaux qui sont très forts, presque caricaturaux parfois, et je dirais que d'une certaine façon, depuis plus d'un siècle, le cinéma et l'illustration se nourrissent l'un l'autre, puisque c'est bien connu que de nombreux réalisateurs s'inspirent d'univers visuels existants, même si on parle des plus récents et qui sont évidents, comme les blockbusters hollywoodiens qui s'inspirent des bandes dessinées.
Oui, les passerelles sont multiples.
Voilà. Mais l'inverse est également vrai.
C'est vrai.
Et nous, on travaille beaucoup avec des illustrateurs qui sont très influencés par les univers du cinéma. Et pour donner un exemple tout simple, quand on pense à Blade Runner, ce sont des univers qui ont énormément marqué toute une génération d'illustrateurs et de dessinateurs de bandes dessinées.
Absolument. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, racontez-nous un tout petit peu, en fait, votre parcours. Je crois que vous avez produit vous-même des objets audiovisuels, des films, à maintes reprises dans le milieu de l'entreprise, si j'ai bien compris. Vous avez été également photographe, vous l'êtes encore un peu pour le loisir. Racontez-nous un petit peu toute cette vie qui a finalement sont devenus finalement des points de convergence pour ce que vous êtes devenu aujourd'hui.
Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique au sens où...
C'est régulièrement le cas dans le cinéma.
Mais, moi, je suis né en 1970 et à l'époque, très très vite, j'ai 7 ou 8 ans, je me retrouve avec un ordinateur entre les mains parce que mon père vend des ordinateurs.
D'accord.
Donc, on parle de cartes perforées. Et donc, ce qui m'intéresse dans un premier temps, moi, c'est l'informatique. C'est la programmation, c'est la technique. Et puis, très vite, par rapport à ça, on évolue vers le jeu vidéo, vers tous ces
tout
univers.
Ce qui est plus ludique.
Voilà. C'est à la fois ludique, mais il y a aussi un côté purement graphique. C'est-à-dire que le code, c'est un petit peu sec parfois, mais quand on peut commencer à l'utiliser pour créer des univers qui sont visuellement attractifs, et surtout, c'est la grande nouveauté, qui sont des univers interactifs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un personnage et il est plus figé. C'est pas un dessin où on a un personnage immobile. C'est pas le cinéma où on va pas diriger les personnages et diriger l'action. Un jeu vidéo, très vite, c'est quelque chose qui ressemble en fait à un film, mais dont on est le metteur en scène. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans les années 80 très basique.
Et ça vous a pris très tôt, donc, du coup, Jean-Christophe.
Mais, alors oui, du coup, moi, je commence très très vite là-dessus. Et moi, mon rêve, quand je suis adolescent, c'est de travailler dans l'informatique.
D'accord.
Alors, étudiant, je travaillais un petit peu pour Commodore. Je travaille en France pour eux, je travaille au Canada. Je travaille pour Electronic Arts, qui est un éditeur de jeux vidéo en Californie. Et puis après, je commence ma carrière chez Microsoft, en région parisienne. Et là, pour être honnête, ça ne me plaît pas beaucoup, parce qu'on passait beaucoup de temps à vendre des boîtes avec des logiciels à l'intérieur. Il n'y avait pas une créativité que je qualifierais de folle. Donc, je rentre en Alsace assez vite, où ma famille habite. Et là, je commence à travailler avec mon père qui, lui, vient de monter une société qui fait notamment du film d'entreprise. Et pendant 25 ans, on va faire du film d'entreprise. Donc moi, je réalise, je fais du montage, je fais assez peu de cadrage, mais je fais toute la post-prod. Et puis, en parallèle, on fait de l'image fixe, on fait de la photo. Mais les deux mondes sont quand même...
étroitement liés.
Voilà, étroitement liés. Sachant que c'est assez drôle parce qu'avec les années, ça va être plus qu'un lien, ça va commencer à se fondre. Parce que la première fois qu'on peut commencer à filmer avec un boîtier réflexe, ça commence à devenir assez intéressant. Et moi, j'ai ce souvenir, la première fois que j'ai un téléphone portable, c'est un iPhone, et je suis sur un chantier, je suis en train de filmer des gens qui construisent un truc. Et puis je me dis, ah, ce serait quand même pas mal d'aller sur ce silo-là et puis de faire une vue aérienne. Seulement, quand on a une énorme caméra montée à une échelle à 25 mètres de haut dans un espèce de tube en métal comme ça, je me dis, je ne vais jamais y arriver, je vais abîmer la caméra, ça ne va pas être possible. Je me dis, mais tiens, je vais essayer de le faire avec mon téléphone. Donc je range ma caméra dans la voiture et je monte comme ça, juste avec mon téléphone dans la poche, j'arrive en haut de ce silo et là, je fais 2-3 panoramiques du chantier. Et je rentre, je prends les rushs que je viens de faire, je les mélange au reste des images, et là j'ai un client qui est ravi et qui me dit « mais c'est super, l'image que vous avez faite, cette vue aérienne, elle est fantastique ». Et ça, c'est la première fois de ma vie où je me dis « ouf, là il y a quelque chose qui est en train de changer ». Et du coup, se mélange très vite quand même les images qui viennent de diverses sources. Et puis, c'est aussi le moment où on peut commencer à faire des trucs un petit peu sympas, en effets spéciaux. Vous avez envie de rajouter un logo sur un camion qui est en train de passer devant vous, ou de le retirer d'ailleurs, vous le faites. Et donc, c'est une période assez intéressante où vraiment les médias se mélangent pour des coûts qui sont quand même très faibles. Moi, quand je commence, mon père a monté la boîte dans laquelle on travaille et il a hypothéqué sa maison pour acheter 2 magnétoscopes, une caméra et une table de montage. Il a hypothéqué sa maison. Là, quelques années ou quelques décennies plus tard, on se retrouve, effectivement, on achète pour 1 000 ou 2 000 euros un appareil numérique, quelques cartes, un ordinateur à 2000 balles, et c'est parti, quoi. Et on est capable de faire des choses qui sont extraordinaires.
Donc ça, cette époque-là, finalement, vous révèle à la fois une sorte de convergence de la technique, mais tout en restant créatif.
C'est une espèce de course. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, la première fois que je commence à travailler, moi, à faire du montage, et qui n'est plus du montage en copiant des bandes sur des bandes, mais qui consiste à digitaliser des rushs et puis à faire de l'édition comme on connaît aujourd'hui, comme on fait du traitement texte avec du copier-coller, je me dis, oh, ça va être super, je vais gagner un temps de malade, ça va être génial. Sauf que l'exigence augmente aussi. C'est-à-dire qu'avant, il faut imaginer, quand on fait du montage vidéo, ce n'est pas du montage cinéma. C'est-à-dire qu'on a un film qui fait 5 minutes, on veut insérer une minute au milieu, on ne peut pas. On ne peut pas couper la bande, coller 2 bouts de film, et puis donc il faut copier la première partie du film, insérer 5 minutes, recopier. Ce qui fait que, alors je suis désolé, je rentre un peu dans la technique, hein, mais on crée une génération. Et à l'époque, on copie de la bande sur de la bande sur de la bande, et au bout d'un moment, ben, on dégrade aussi l'image, et c'est plus très beau. Quand on commence à pouvoir digitaliser et faire des insertions, des suppressions, etc., on se dit, mais ça va être génial. Mais les gens avec qui on travaille réalisent aussi très vite que c'est beaucoup plus facile de faire ça. Donc, ils vous en demandent beaucoup plus. Et puis là où on avait 3 versions avant, on en a 30. Donc, en fait, on n'a pas forcément gagné beaucoup au niveau gain de temps. Par contre, c'est vrai qu'au niveau
du résultat, vous avez élevé les standards.
Voilà, c'est quand même devenu beaucoup plus proche de ce qu'on avait en tête. Avant, souvent, on se disait, bon, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Non, allez, là, je laisse tomber. Là, finalement, on le fait.
Alors, Jean-Christophe, quelque part, merci de me faire la transition, parce que, pour le coup, ce niveau d'exigence, on le retrouve évidemment dans chacun de vos ouvrages. On va prendre un exemple, mais j'en ai plein la table là. Donc du coup, on va s'attarder sur quelque chose qui, encore plus que les autres, se rapproche du cinéma, puisqu'on va parler de storyboard. Vous avez créé donc cette maison d'édition. On peut repréciser les dates un petit peu. Les éditions Corrette, elles sont nées en quelle époque?
Alors, je commence, moi, à faire de la diffusion de livres en provenance d'Asie en 2012. D'accord. Et les éditions Corrette, ça vient justement de cette idée de dire c'est bien de distribuer les livres des autres, mais j'ai quand même drôlement envie d'en faire moi-même. Ça a l'air super facile. Spoiler, ça ne l'est pas. Et je commence à faire des livres en 2016.
Qu'est-ce qui a été l'élément déclenchant et qui vous vous êtes dit un beau jour comme ça, ça j'ai envie quand même de mettre un petit peu de mon énergie dans cet univers.
Je crois qu'un des liens entre le cinéma et le dessin, c'est la magie. C'est-à-dire que quand on regarde un film et que c'est bien fait, il y a un petit côté magique. On rentre dans l'univers de quelqu'un d'autre. En plus,
on voyage.
Voilà, c'est pas forcément évident au début. C'est-à-dire que on va avoir des personnages qui sont pas tous cadrés pareil. On va avoir des ellipses, Mais les enfants comprennent très très vite. Hein. On n'a pas besoin de leur expliquer comment ça fonctionne. En fait, vous regardez un film, votre cerveau s'adapte très très vite à ça. En bande dessinée, et notamment, ou en roman, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que des gens vont faire naître des images dans votre esprit. Et quand on lit un roman, c'est très simple. Hein, vous lisez n'importe quel roman, vous visualisez les personnages, les lieux, les situations, l'action. Et il y a cette magie qui opère. Et quand on parle de dessin, notamment d'illustration, il y a en plus quelque chose qui est fascinant, c'est que c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Ça a l'air tellement facile. Vous donnez à quelqu'un un crayon, une feuille de papier, et puis si c'est un bon dessinateur, il va vous faire un truc extraordinaire. Il n'y a rien, hein, c'est la main, le cerveau. Et ça a l'air tellement simple. Comme le gars qui court le 100 mètres, et puis on le regarde tranquillement dans son canapé avec des chips et une bière en disant « Oh là, le dernier, il pourrait se bouger un petit peu plus ». Mais en fait, c'est des grands professionnels, c'est des gens qui se sont entraînés pendant
des années. C'est très
sacrificiel,
c'est-à-dire que on s'investit tellement fort dans un univers que finalement, la résultante paraît simple et très accessible, tellement la virtuosité est omniprésente, on est d'accord. Hein.
C'est exactement ça. Et on parlait de réalisation, et là, vous évoquiez le storyboard. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le storyboard est devenu depuis de nombreuses années d'ailleurs un élément à part entière de nombreux films, parce que les films coûtent tellement cher à faire que c'est ce qui permet au réalisateur de visualiser son action, ses plans, ses caméras,
de manière chirurgicale, hein. C'est très très précis, hein, le storyboard, hein. Et ça, c'est vrai que c'est un élément très important que vous faites bien de préciser, Jean-Christophe, c'est qu'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec bon nombre de réalisateurs, certains surpassent de cette activité. Bon, chacun est libre ou pas de fonctionner de cette manière, mais honnêtement, les films à succès, les grosses productions, systématiquement, pour être très précis dans la feuille de route du quotidien de la production d'une œuvre qui, malgré tout, représente des gros sacrifices financiers, hein, le storyboard est omniprésent, et la plupart du temps, je crois avoir entendu d'ailleurs Sylvain Desprez, puisque c'est de lui dont on parle, et d'un livre qui s'appelle Los Angeles, donner une interview où il précisait qu'on lui faisait refaire des dessins des planches, mais qui précisément, en fait, en temps réel presque sur le tournage, évitait de faire des fausses routes ou reconditionner un tout petit peu l'histoire. En fait, ça prenait un rôle très important finalement, hein.
Alors, Sylvain Després, avec qui on a eu la chance de faire un livre qui s'appelle Los Angeles.
Voilà. Et c'est de cet ouvrage dont on parle, en fait, qui est sorti il y a quelques années, en 2020, mais qui refait l'actualité, puisque vous venez de m'évoquer une sortie au Japon,
voilà, on a,
de manière imminente.
On a eu la chance d'être contacté par un éditeur japonais qui était séduit par le livre. Et donc, normalement, on a une version japonaise de l'ouvrage qui sort très prochainement. Parce que les livres sur le storyboard sont assez rares. Il y a des livres techniques qui expliquent comment storyboarder. Oui. Il y a assez peu de livres qui parlent de storyboard sous un angle qui est plus un angle raconter des histoires.
C'est ça.
Sylvain Després, c'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années maintenant, qui a travaillé énormément, il a fait tous les storyboards de Ridley Scott, par exemple. Mmh. Il a travaillé, pour ceux qui s'intéressent à la bande dessinée, énormément avec un des plus grands auteurs aujourd'hui qui s'appelle Moebius.
Évidemment.
Et c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a énormément de choses à dire sur la machine à rêve qui est Hollywood. Et donc, on a fait ce livre pour parler un petit peu, justement, de son travail en toile de fond, mais également de qu'est-ce que faire un film.
Vous citez Ridley Scott, évidemment, on connaît sa filmo et ça force le respect, forcément. Et on retrouve complètement ses atmosphères dans ses dessins. Et ça, c'est vraiment... On va discuter, mais on va essayer de faire gagner un ouvrage ou deux à nos auditeurs qui sont évidemment passionnés de cinéma, parce que c'est des œuvres à part entière et je trouve que ça relate vraiment l'esprit d'un artiste et la démarche intellectuelle qui est, je trouve, extrêmement présente sur chacune des pages. Et ça, c'est un vrai privilège.
Et il y a aussi quelque chose qui est très sympa, c'est que, vous ouvrez la page au bon endroit. Par exemple, Sylvain Després a storyboardé plusieurs scènes qui n'ont jamais été tournées. Là, on est sur Gladiator, par exemple, donc film de Ridley Scott. Il y a une séquence, notamment, avec des zèbres, et il raconte plus tard qu'en fait, la séquence n'a pas pu être tournée parce qu'ils n'arrivaient pas à dresser les zèbres. Enfin, que les zèbres n'obéissaient pas comme il fallait. Mais du coup, il est tellement bon en termes d'illustration qu'on n'a aucun mal à s'imaginer la scène, surtout quand on connaît le film. Et donc, des séquences intermédiaires comme ça vont s'ajouter dans des situations qu'on connaît, des décors qu'on connaît, avec des personnages qu'on connaît. Et donc, ça permet de découvrir toute une facette de ce qui aurait pu être.
Oui, de rentrer aussi un peu dans l'intimité du projet artistique et finalement de le vivre de manière un peu plus intense et de partager des choses qui sont restées off pour l'instant.
Il y a même des films complets. Il y a notamment un film sur Hannibal où Sylvain Després a illustré la traversée des Alpes par les éléphants, le fameux épisode avec Hannibal. Et donc, ça permet de visualiser un petit peu ce qu'aurait pu être le film. On sait bien que pour un film qui sort, il y en a 10 qui n'ont pas vu le jour. Mais là, du coup, on est dans un espèce d'état intermédiaire qui permet d'imaginer une œuvre qui aurait pu être.
Donc, on a des pages entières, des pleines pages, en fait, de très, très beaux dessins qui relayent un film, qui relayent un univers, etc. La plupart du temps, c'est en lien indirectement ou directement au cinéma. Et ce qui est vraiment très appréciable, c'est qu'à chaque fois, on entr'ouvre une forme de chrysalide qui appartient à cet artiste et il nous offre la possibilité de fréquenter son univers de manière très intime. Et ça, je trouve que cette relation-là, elle est suffisamment rare pour qu'on puisse le préciser. Et je trouve qu'à ce niveau-là, vous avez un rôle d'ambassadeur qui est extrêmement important et je trouve que le lecteur est extrêmement privilégié.
Il y a des passerelles et des parallèles quand même très forts et très évidents entre les gens qui travaillent dans le cinéma, notamment ceux qui travaillent sur tout ce qui est effets spéciaux, création de costumes, création de caractères, et l'illustration. Alors je vais vous donner un scoop.
On aime bien ça.
On est en train, par exemple, de finaliser un livre avec un artiste qui s'appelle Jeremy Bennett, qui est néo-zélandais et qui est le superviseur de tous les effets spéciaux sur les films de Peter Jackson, sur Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, bien entendu.
Génial.
Et donc, alors, lui est sorti un petit peu, ça ne va pas être un livre directement sur le cinéma, mais c'est un carnet de voyage en Égypte à l'aquarelle. Et donc, c'est Jeremy Bennett, c'est à la fois quelqu'un qui
marche sur les pas des décors qui ont peut-être été utilisés dans les films de Peter Jackson, justement.
Voilà. C'est à la fois un grand technicien, pour se faire tous les effets spéciaux des films qu'on connaît, il faut être sacrément pro. Et en même temps, c'est un grand artiste. Et on a la même chose avec John Ho ou Alan Lee, pareil, qui sont les inspirateurs des univers graphiques.
Des influenceurs, on peut dire ça comme ça.
Oui, c'est même plus que ça, c'est qu'ils ont fait tous les dessins de pré-prod des films, qui sont des grands illustrateurs par ailleurs. Donc, pour revenir sur John Ho, parce que ça vaut la peine de parler un peu de lui, John Ho, on le connaît parce qu'effectivement, donc c'est un des deux dessinateurs qui ont travaillé sur le Seigneur des Anneaux, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'univers de Tolkien depuis qu'il est adolescent. Et il a fait ses études à Strasbourg, où nous, on a la maison d'édition. Ouais. Et quand on rencontre des gens qu'il connaissait il y a 40 ans, voire 50 ans, il était déjà dans cet imaginaire-là. Donc, en fait, ça ne vient pas non plus de nulle part. Quand il se met à travailler avec Peter Jackson, c'est quelque chose... Ce n'est pas un travail de commande. On n'a pas pris un gars qui sait bien dessiner pour lui dire « Tiens, fais-nous tel personnage, tel bâtiment, tel équipement. » Non, c'est quelqu'un qui a assimilé pendant des décennies un univers... et qui, à un moment donné, va ressortir sa version de cet univers. Et là, le lien avec le cinéma, il est évident. C'est-à-dire que d'un coup, on va avoir une matérialisation, justement, de la pensée d'un artiste. Si on regarde, il y a plein de livres qui sont sortis derrière sur, justement, les carnets de dessin, les inspirations, les sketchbooks, et patati patata. Quand on voit les films à l'écran, c'est la vision d'un illustrateur qui est projetée en trois dimensions. Voilà.
Vous me faites penser, je pense spontanément comme ça, à un dessinateur, un illustrateur comme Giger, pour l'univers d'Alien par exemple, c'est un peu pareil, quoi. C'est un homme finalement qui développait tout un environnement, et de cet environnement, je pense que la déclinaison cinématographique, elle a été largement influencée par l'univers du dessinateur. On est d'accord, en fait. Hein.
Je vais même aller encore un petit peu plus loin, puisque vous ne le savez probablement pas, David, mais on travaille sur un livre, justement, sur l'univers de Giger. Et dans ce livre, c'est un livre collectif, c'est-à-dire qu'on a demandé à tout un tas d'artistes, Giger, pour vous, c'était quoi? Est-ce que ça vous a influencé et comment? Et dedans, on va avoir des gens aussi divers que Julien Dumont, par exemple, qui est le directeur du musée du cinéma de Lyon, des groupes de musique, énormément d'illustrateurs. Mm-hmm. Et quand on parle de Giger, par exemple, on s'aperçoit que son univers a influencé énormément d'artistes qui eux-mêmes vont réinfluencer d'autres artistes. Au bout d'un moment, on perd parfois l'origine. Pour revenir à Tolkien, aujourd'hui, quand moi j'étais enfant, cet univers, on va dire, d'heroic fantasy, était quand même très peu répandu. Quand vous commenciez à parler de ça dans une cour de récré, les gens vous regardaient en demandant un peu si tu étais pas un petit peu débile sur les bords quand même. Aujourd'hui, je dirais, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante. Voilà. Mais parfois, on a besoin de remonter quand même à la source. On va dire, voilà, on est en train en ce moment de travailler sur une très belle version illustrée par Julien Delval, du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Ça fait partie des tout premiers textes, des toutes premières histoires, où on va retrouver des fées, des elfes, des magiciens, c'est Oberon, c'est Puck, c'est... Et donc... Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. J'enfonce un peu une porte ouverte.
Non, mais c'est vrai.
Pour revenir sur Giger, il fait quand même partie de ces rares artistes qui ont créé leur univers. Vous voyez du Giger, vous savez que c'est du Giger.
Alors, Jean-Christophe, on pourrait évidemment égrener bon nombre d'ouvrages. On mettra des liens, évidemment, au pied de ce rédactionnel pour qu'on puisse présenter un petit peu mieux votre maison d'édition. On arrive désormais au terme de notre émission et il y a une tradition à la radio du cinéma. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Et s'il vous plaît, faites-nous partager ça. Pourquoi vous les avez choisis ?
Mon film préféré, c'est pas difficile ça, mon film préféré c'est Excalibur de John Boorman. Mm-hmm. Moi j'ai découvert ça, j'avais une dizaine d'années, et ça a été une claque visuelle, mais incroyable. J'ai vu ça dans un petit cinéma à Strasbourg, on était trois dans la salle, et c'était d'un coup tout ce que j'aimais. C'était, il y avait quelqu'un qui venait de matérialiser à l'écran tout ce que j'avais dans la tête. Alors après, quand on, c'est un peu le double effet qui se coule. Quand on grandit, on l'analyse différemment. En fait, Excalibur, c'est quoi ? Excalibur, c'est l'histoire du remplacement des vieilles croyances, des croyances païennes de l'Angleterre, de l'Europe occidentale, par un dieu nouveau qui est le dieu des chrétiens. Et donc, c'est la disparition de l'ancien monde. Mmh. Les acteurs sont à l'époque ça me disait rien, mais aujourd'hui on va retrouver des acteurs comme Nicole Williamson qui joue Merlin, Hélène Mirren qui joue la fée Morgane, Nigel Terry qui joue Arthur. C'est un film que j'ai vu une bonne quinzaine de fois, que j'ai toujours autant de plaisir à regarder, qui est porté par une bande son incroyable, notamment le Carmina Burana de Karl Orff. Mm-hmm. Enfin, si vous n'avez pas vu Excalibur, allez le voir, et allez le voir au cinéma.
Au nom du Tout-Puissant, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te donne droit à porter l'épée et à rendre la justice. Ce devoir sera jamais le mien, comme chevalier et comme roi.
Alors, on va aussi s'intéresser à votre musique de film préférée, s'il vous plaît.
J'adore la bande-son du Cinquième élément de Luc Besson. Et notamment, il y a un passage que je trouve génial. Si vous avez vu le film, il y a la diva bleue qui chante l'aria de Lucia di Lammermoor. Mm-hmm. Et qui a un passage très calme, assez contemplatif, je pourrais dire, et qui enchaîne sans transition. C'est vraiment la continuité de l'aria avec une musique beaucoup plus moderne, presque techno, qui colle parfaitement à l'action du film. Bon, on sait que Luc Besson peut être un grand réalisateur, et là je trouve que c'était vraiment un coup de maître.
Et puis pour finir, en fait, vous avez certainement un petit coup de cœur, une réplique qui est constamment en résonance en vous.
Oh ben ça ne va pas être original, mais je vais citer Michel Audiard. Les corons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Dans la bouche de Lino Ventura, dans Les Tontons Flingueurs. Et là, c'est pareil. Allez voir Les Tontons Flingueurs.
Merci infiniment, cher Jean-Christophe.
Merci.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ?
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Les mains sur la table. Vous voyez bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours.